Jean, chapitre 6, versets 48 et 51. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Bonjour à tous, frères et sœurs. On a encore une opportunité de contempler sur la parole de Dieu et d'examiner, de l'examiner à la lumière des événements qui se révèlent à nos yeux dans l'histoire de l'humanité. Et la question qui se pose à notre esprit, c'est « Avons-nous honte de Jésus ? » Ou sommes-nous prêts à confesser Jésus, même lorsque cela coûte toute la réputation qu'un homme puisse amasser dans les années de sa vie ? Et si vous examinez bien attentivement à la lumière des études qu'on a traversées dans les dernières fois où nous avons pu méditer sur cette série dans laquelle nous sommes engagés, vous réalisez à la lumière de l'heure du jugement dans laquelle nous vivons actuellement que nous avons des leçons à apprendre et un temps chaque jour plus court pour les apprendre et nous les approprier, et une expérience à faire, à vivre en Christ. Ce sont là les réalités inévitables du jugement dans lequel nous vivons. Est-ce que j'aimerais aujourd'hui qu'on contemple, et ce sur quoi je voudrais qu'on médite, c'est une expérience au sein et analogue à l'expérience de l'heure du jugement antitypique, du jour des expiations. Et elle nous est suggérée dans la citation que l'on trouve dans Message choisi, volume 1, à la page 259, paragraphe 3. Voilà ce qui est écrit. Nous nous trouvons au seuil d'événements graves et solennels. Les prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et pleine d'intérêt s'inscrit dans les livres du ciel. Événement prédit comme devant précéder de peu le grand jour de Dieu. Tout dans le monde est dans un état instable. Les nations sont irritées et l'on fait de grands préparatifs de guerre. Une nation conspire contre une nation, un royaume contre un royaume. Le grand jour de Dieu est proche. Toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de l'effusion de sang, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. C'est la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que le monde, tout dans le monde est dans un état instable et des préparatifs sont faits pour la guerre. Et les gens aujourd'hui ne se cachent pas de suggérer une réalité imminente d'une troisième guerre mondiale. Et ces choses n'étaient pas cachées à Dieu. Elles ne sont pas une surprise parce que c'est ces choses qui nous sont prophétisées dans l'Apocalypse. Parce que parmi les sept plaies qui sont prophétisées et prédites et annoncées dans Apocalypse chapitre 16, la sixième plaie, c'est la plaie d'Armageddon. Et donc toutes ces choses, tout dans le monde est dans un état instable et tendent vers cela. Mais tandis que c'est la réalité, que les nations sont irritées et que l'on voit toutes sortes de complots se tramer pour préparer la voie vers un nouvel ordre mondial qui sera l'accomplissement de cette prédiction dans 1 Thessaloniciens qui nous dit qu'il serait déclaré au monde que c'est la paix et la sécurité, mais que au même moment, une destruction soudaine viendrait sur la terre. Et à ces moments-là dans lesquels nous vivons, qui sont des moments terribles d'anticipation et de destruction, nous lisons que toutefois, bien que les nations rassemblent leurs forces en vue de la guerre et de l'effusion de sang, une effusion comme il n'en est jamais existé dans le passé des guerres des hommes, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 14 au dernier verset, il y aurait un bain de sang suffisant pour remplir une vallée entière. Ce sera la conséquence, mais nous lisons que bien que ce soit ce qui se trame et ce qui se prépare, l'ordre est encore donné aux anges de retenir les quatre vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. Et donc cette suggestion de l'esprit de prophétie, c'est ce qui entame notre méditation aujourd'hui, car cela nous amène et nous dirige vers les versets, le passage d'Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis quatre anges qui se tenaient aux quatre coins de la terre, retenant les quatre vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de points, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Donc c'est là l'activité du scellement qui nous est introduite dans la parole de Dieu. Et ce scellement, ce n'est autre que l'heure du jugement dans laquelle les enfants de l'Israël moderne sont appelés à affliger leurs âmes pendant que Dieu efface leurs péchés du sanctuaire. Et pendant que cet effacement, cette purification a lieu, ce qui est en train de se produire nous est indiqué par la bannière qui est décrite dans Apocalypse 14, 12, c'est que ce qui caractérise le peuple de Dieu, ces 144 000, c'est les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, l'observation de tous les 10 commandements de Dieu caractérise ce peuple, ces 144 000 qui nous sont ici proclamés comme étant ceux qui seront scellés à la fin. Et ce scellement s'opère de manière parallèle et inséparable avec l'heure du jugement, le jour antitypique des expiations. Et nous lisons pour développer cela dans Événements des derniers jours, à la page 174, paragraphes 3 et 4. Et c'est très intéressant parce que le titre qui est ici utilisé, c'est « La période probatoire s'achèvera en même temps que le scellement des élus. » Donc cette période probatoire qui a commencé depuis le début de la chute d'Adam et Ève, elle se terminera en même temps que se terminera ce scellement des élus qui nous est ici présenté dans ce passage d'Apocalypse 7 que nous venons de lire. Et donc ça, ce n'était que le titre, je lis maintenant la déclaration. Juste avant d'entrer dans le temps de trouble ou de détresse de Jacob, nous reçûmes, Ellen White était en vision, et elle peut dire cela, nous reçûmes tous le sceau du Dieu vivant. Puis je vis les quatre anges lâcher les quatre vents, et je vis la famine, la maladie et l'épée, une nation s'élever contre une nation. Et le monde entier était dans la confusion. Paragraphe 4. Je vis les anges se hâter en tous sens dans les cieux. Un ange muni d'une écritoire revint de la terre et rendit compte à Jésus du travail qu'il avait accompli et du recensement et du scellement des saints. Puis je vis Jésus qui avait officié devant l'arche contenant les 10 commandements jeter l'encensoir sur la terre. Il éleva les mains et dit d'une voix puissante, « Tout est accompli. » Donc voilà, pendant que ces quatre vents sont retenus, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés, nous n'assistons pas encore à un engagement général des forces de guerre des nations de la terre. Donc, notre série, c'était le sujet que nous sommes appelés à la gloire de Dieu, et dans cet appel, Dieu veut nous sceller parmi les 144 000. Il n'a pas d'autre désir que nous soyons affermis intellectuellement et spirituellement dans les vérités qui ont été confiées aux premiers adventistes du septième jour. Et donc dans cette activité qui est une d'affliction de l'âme, d'examen comme nous l'avions vu précédemment, de contemplation de Jésus pour être transformé, une contemplation intelligente à travers sa vie qui nous est révélée dans sa parole, dans cette activité, il y a quelque chose que l'esprit de prophétie nous a révélé et que nous devrions nous approprier en ces temps d'indépendance, d'esprit d'indépendance. Et cela se trouve dans les premiers écrits, à la page 67, au paragraphe 1. Et là, elle dit, lorsque je vis que nous devions être dans les conditions voulues pour pouvoir hériter de la gloire éternelle, et combien Jésus avait souffert pour nous obtenir ce riche héritage, je priais pour que nous soyons baptisés dans ses souffrances, afin que nous ne faiblissions pas sous l'épreuve, mais que nous la supportions avec patience et avec joie, sachant que Jésus a souffert pour que, par sa pauvreté et ses souffrances, nous fussions enrichis. Et là, elle continue, et c'est ça qui nous intéresse tout particulièrement maintenant. L'ange dit, renoncez à vous-même, vous devez avancer vite. Plusieurs parmi nous ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas, et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour faire le suivant. Donc elle, là, c'est Ellen White qui parle et elle dit « Plusieurs parmi nous ont eu ce temps de progresser dans la vérité. » Et nous, c'était elle comprise et tous les pionniers de l'Église adventiste du septième jour. Donc parmi ces pionniers se trouvaient Joseph Bates, James White, son mari. Vous aviez Hiram Edson, vous aviez J.N. Andrews, et par la suite, il y a eu aussi ceux qui se sont joints à eux, parmi lesquels étaient J.N. Loughborough, et ensuite Stephen Haskell, etc., etc., Cottrell. Et ces personnes, elles disaient, ont eu le temps de progresser dans la vérité, de découvrir des vérités et de mettre de côté et d'abandonner d'autres erreurs, d'avancer pas à pas dans cette progression, cette révélation progressive dans laquelle l'esprit de prophétie venait affirmer, confirmer, soutenir leur découverte ou infirmer et les corriger dans leur avancée, dans l'étude, pas à pas de la parole de Dieu. C'était leur expérience, leur expérience. Et maintenant, elle continue, et je continue de lire ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Ça, c'était à cette époque, du temps de son vivant, elle pouvait dire « Aujourd'hui, le temps est presque fini. » Qu'en est-il de nous, frères et sœurs? Le temps était presque fini de son vivant. Elle est morte en 1915. À quel point sommes-nous prêts de la vague du Jourdain? Pour traverser ou être enseveli sous la vague. Aujourd'hui, le temps est presque fini et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Je lis ici l'esprit de prophétie. Est-ce que nous croyons en l'esprit de prophétie? Est-ce que nous croyons de manière active en ce qui est déclaré ici? Ou sommes-nous nonchalants et cette déclaration nous passera-t-elle au-dessus de la tête pour ensuite nous condamner plus tard? Frères et sœurs, si nous entendons ces choses, nous devons prendre ces choses à cœur. Parce qu'il y a beaucoup de chances qu'elles ne viendront pas deux fois. Parce que si nous méprisons ces choses, si nous sommes indifférents à ces choses, Dieu ne nous forcera pas d'être sauvés. Donc l'ange avait dit, renoncez à vous-même, vous devez avancer vite, quelques mois pour apprendre. Et ce n'est pas tout parce qu'elle continue de dire « Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre et beaucoup apprendre de nouveau. » Donc, nous qui vivons aujourd'hui et qui nous réclamons du nom d'adventiste du septième jour, l'appel, c'est que nous avons beaucoup de choses à désapprendre et beaucoup de choses à apprendre. Donc il n'y a pas de place pour l'indifférence et la nonchalance et l'engourdissement et la léthargie spirituelle. On ne peut pas se permettre, frères et sœurs, si nous avons été là, l'Esprit nous dit « Réveille-toi, toi qui dors. » Je continue. « Ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et son image au moment où le décret sera promulgué, que doivent-ils faire ? Doivent manifester maintenant de la décision et dire « Non, nous n'observerons pas l'institution de la bête. » Donc il ne s'agit pas simplement d'attendre le dernier moment et de dire « Ah, mais c'est bon, je suis un héros maintenant, j'ai plein de courage, je suis un homme plein de vertu et donc je vais résister avec toute la force qui existe en moi. Il n'y a aucune force en moi. » Et je ne pourrais pas dire non si maintenant je ne manifeste pas de la décision en disant, et c'est intéressant parce que en disant maintenant, non, nous n'observerons pas l'institution de la bête. Mais vous me direz, mais l'institution de la bête n'est pas encore là. Comment je peux dire maintenant avec décision non? C'est cela qui est intéressant, frères et sœurs. Parce que l'institution de la bête, elle est introduite et préparée par toutes sortes de stratagèmes de Satan par lesquels il cherche à endormir les âmes de telle manière que lorsque le moment vient où ils s'imaginent qu'ils seront pleins d'héroïsme et de courage, à ce moment-là, ils seront sans force, sans énergie spirituelle, sans huile, dans leur vase, et ils diront « Tant pis, au revoir, Jésus. » C'est la réalité, frères et sœurs. Donc, il nous faut avancer vite. Et pas simplement ça, pas avancer dans ma propre idée de ce que cela veut dire, mais il nous faut, comme l'ange a dit, renoncer à nous-mêmes. Et dans ce renoncement, nous avons besoin d'aller vite parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à désapprendre. Et d'ailleurs, c'est plutôt vice-versa. Il nous faut d'abord désapprendre pour pouvoir apprendre de Dieu. Donc c'est l'appel, cela fait partie de cet appel. Ce n'est pas quelque chose de flou ou d'incertain, il s'agit du scellement des 144 000 dans lequel nous sommes appelés en tant qu'adventistes du septième jour. Et moi, je me souviens que l'on me parlait de la grande multitude et on me présentait toutes sortes d'idées, d'opinions complètement imaginaires. Mais la grande multitude, ce sont les personnes qui n'ont pas été éprouvées, mises à l'épreuve par les messages, le message du troisième ange. Donc il n'y a que les 144 000. Nous n'avons pas d'autres appels que celui-ci. Et maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, frères et sœurs, c'était quelque chose en lien avec une expérience personnelle que j'ai faite et que je fais. Et je pense que c'est nécessaire que l'on touche. D'ailleurs, l'esprit de prophétie dit sans cesse qu'il ne faut pas simplement sermonner les gens et leur présenter simplement la théorie de la vérité, mais que l'on présente la vérité telle qu'elle est en Jésus. Et telle qu'elle est en Jésus, cela veut dire, parce que Jésus parlait comme aucun homme n'avait parlé avant, parce qu'il vivait comme aucun homme ne vivait et n'avait vécu. Et donc, l'impact de la vérité ne viendra pas à l'âme simplement parce que toute la logique est du côté de la simple et pure parole de Dieu, mais parce que elle est chargée d'un amour irrésistible. Et on ne peut résister véritablement à cet amour qu'en se détournant de cet amour. Parce que si nous regardons cet amour, nous ne pouvons qu'être attirés par l'amour de Jésus. Est-ce que c'est ce que je voudrais faire, c'est toucher à quelque chose de réel, de tangible, et une expérience que je peux aussi m'approprier et que j'ai faite également. On va pour cela dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 du verset 11 à 15. Voilà. Vous connaissez la parabole, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Mais j'aimerais qu'on prenne du temps pour considérer la parabole à la lumière de notre propre expérience. Et qu'on essaye de laisser Dieu, de permettre à Jésus de toucher les cordes de notre expérience personnelle. De laisser Jésus rentrer dans le temple de l'âme pour toucher les cordes sensibles du cœur, pour les toucher, pour qu'il y ait une connexion, pour que l'écorce du cœur soit traversée par l'amour de Jésus. On le lit ici dans Luc 15, verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait deux fils, et le plus jeune dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, ce plus jeune fils, ayant tout amassé, partit pour un pays éloigné. Et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, il survint une grande famine dans ce pays et il commença à être dans l'indigence. Et s'en étant allé, il se mit au service d'un des habitants de ce pays qui l'envoya dans ses terres paître les pourceaux. Et il eut bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient, mais personne ne lui en donnait. Donc cet enfant prodigue, il était à la maison de son père. Il avait en sa portée tous les bienfaits que son père pouvait lui souhaiter. Simplement, il n'avait pas atteint l'âge, la maturité qui justifierait que ses biens lui soient octroyés sans réserve. Il était dans le foyer paternel, donc soumis à l'autorité de son père. Mais il lui dit à son père, « Donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. » Il considéra que sa place n'était pas justifiée et qu'il voulait sortir des limites et des restrictions du foyer de son père et qu'il voulait goûter à la vie. La liberté de ne plus être sous l'autorité permanente et les regards permanents de son père et se livrer à tous les désirs de son corps. Mais après qu'il soit parti pour ce pays éloigné et qu'il y ait véritablement dilapidé tout ce qui lui était échu comme sa part, il s'est retrouvé dans un pays qui n'était plus le sien, ayant écoulé toutes les ressources de son père, de son héritage, et maintenant, il s'est retrouvé face à une grande famine dans ce pays. Vous savez, cette parabole, elle est chargée de leçons. Si nous voulons bien et si nous sommes prêts à recevoir de telles leçons. Et dans cette famine, il a finalement choisi et décidé de se mettre au service d'un des habitants, lequel l'a envoyé nourrir des cochons. De la hauteur, de la noblesse, de la maison du père, il est descendu jusque à la maison des porcs. Et j'aimerais qu'on lise l'esprit de prophétie pour nous donner une vision claire de ce qui nous est présenté ici dans cette parabole. Nous lisons les paraboles de Jésus à la page 168, commençant par le paragraphe 2. La Bible nous parle d'hommes qui, se vantant d'être sages, sont devenus fous. C'est l'histoire du jeune homme de notre parabole. Il dissipe avec des prostituées les richesses qu'il a égoïstement réclamées à son père. Il dilapide le trésor de sa jeunesse, les plus belles années de son existence, la force de son intelligence, les brillantes perspectives de son jeune âge, ses aspirations spirituelles. Tout est consumé dans le feu de la convoitise. Mais une grande famine survient et il commence à se trouver dans le besoin. Il se met au service d'un habitant du pays qui l'envoie paître les pourceaux. Pour un juif, c'était là l'emploi le plus vil et le plus dégradant. Le jeune homme qui s'est vanté de sa liberté se trouve maintenant réduit à l'esclavage. Il est dans la pire des servitudes, saisi par les liens de son péché. Le fascinant mirage qui l'a séduit s'est évanoui et il sent maintenant le poids de sa chaîne. Assis sur le sol dans cette contrée frappée par la famine, sans autre compagnie que celle des pourceaux, il voudrait bien pouvoir se rassasier des caroubes que l'on donne à ses bêtes, de tous les joyeux compagnons qui l'entouraient au jour de sa prospérité, pour boire et manger à ses dépens. Il n'en reste pas un seul pour sympathiser avec lui. Où est maintenant sa joie tapageuse, faisant taire sa conscience, engourdissant sa sensibilité, il se croyait heureux. Mais aujourd'hui que tous ses biens ont été gaspillés, qu'il souffre de la faim, que son orgueil est humilié, que ses facultés morales sont amoindries, que sa volonté est si affaiblie qu'il ne peut plus compter sur elle, que tout sentiment élevé semble avoir tari en lui, il est le plus misérable des êtres humains. Donc voilà, c'était l'expérience de cet enfant prodigue qui n'est autre qu'une représentation de celui qui quitte la protection de Dieu pour se nourrir des caroubes du monde. Et dans la parabole de cet enfant prodigue, nous apprenons que les libertés du monde se changent vite en amertume et regret, et que seules les limites et les restrictions du foyer paternel favorisent le bien-être et l'épanouissement intérieur de l'âme. Et à la lumière de ces paroles de Jésus de la parabole, nous voulons maintenant également écouter la voix de l'Esprit lorsqu'il parle à notre âme qui s'est peut-être retrouvée dans cette situation de l'enfant prodigue auprès des pourceaux, dans une famine, dans un pays qui est dans la famine, de la même manière que nous aussi vivons dans un pays qui est dans une famine, non pas de pain, non pas d'eau à boire, mais des paroles de Dieu. Si nous nous retrouvons, nous nous sommes retrouvés, nous ressentons combien cette parabole, cette histoire nous parle, alors nous entendons et nous lisons les paroles de Jésus dans Jean chapitre 6, verset 35, et puis à partir du verset 48. Parce que l'expérience de cet enfant prodigue, cela peut également en ces derniers temps être la nôtre, parce que nous lisons qu'en ces derniers temps, Satan est irrité contre la femme, l'Église, et qu'il s'en va faire la guerre contre le reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent la foi de Jésus et qui chérissent le témoignage de Christ, l'esprit de prophétie. Et donc en ces moments, parmi les stratagèmes de l'ennemi, comme nous allons le voir, il cherche à détourner notre attention des choses essentielles pour faire que nous nous attardions sur les choses qui ne nourrissent point, mais qui, comme ces carouges, sont des gousses dans lesquelles il n'y a rien, qui sont vides de nutrition spirituelle. Mais c'est son but et son effort constant que nous soyons perpétuellement accaparés dans notre esprit et nos énergies de notre intellect par ces choses qui ne donnent rien à manger. Et donc dans la position de cet enfant prodigue assis aux côtés des pourceaux et se demandant si nous ne préférerions pas manger ces caroubes comme eux plutôt que de souffrir de la disette spirituelle dans ce pays étranger ? Nous entendons ces paroles. Jean 6, verset 35. Et Jésus leur répondit, parce qu'il lui avait dit, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Parce qu'il leur avait parlé du pain de Dieu qui descend du ciel. Et donc ils se disent, « C'est merveilleux ça. Donne-nous de ce pain-là. Où est-ce qu'on peut le trouver ?» Un peu comme la femme samaritaine. Il lui avait parlé d'une eau que si elle la buvait, elle n'aurait plus jamais soif. Et il lui avait dit, « Donne-moi de cette eau-là que je n'ai plus soif, que je ne viens plus remplir, me ressourcer à ce puits. » Et Jésus a répondu à cela, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Verset 48. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Mais Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Donc la famine de l'âme dans ce pays affamé, elle ne peut être rassasiée que par celui qui est le pain vivant, le pain de vie. Et Jésus n'a rien raté et n'a rien laissé de manière floue ou incertaine pour que nous ayons le champ libre à une imagination détraquée, mais il a continué en répondant à l'objection que ses disciples faisaient. Plusieurs de ses disciples, l'ayant entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ça voulait dire trop de choses que de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus. Parce qu'il n'était pas comme les pharisiens, il n'était pas sans une lueur de compréhension de ce que Jésus voulait dire par cela. Il pouvait discerner, de la même que Judas pouvait discerner, que la signification de ces paroles-là suggérait une relation étroite et intime et personnel de renoncement avec Jésus-Christ. Et donc ils ont dit, cette parole, elle est dure. Qui peut écouter ça? Oh! La frustration qui était à l'intérieur de leur être révélait les passions de la chair. Et Jésus pouvait discerner tout cela, mais il leur a répondu les choses que nous avons besoin d'entendre pour notre éducation maintenant. Il disait, mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, ceci vous scandalise-t-il? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc tout ce qu'il avait dit auparavant, c'était quoi? Parce que la chair ne sert de rien, alors c'était les paroles dont il est question. Les paroles de Jésus-Christ sont esprit et elles sont vie. Et il est le pain de vie en ce que les paroles, ces paroles, lorsqu'elles sont absorbées en nos âmes, nous procurent et nous communiquent sa vie. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, celui qui me mange comme cela, il vivra par moi. Il ne vivra pas par une idée de moi, pas par une opinion de moi, pas par une émotion de moi, il vivra par moi. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 15, je crois, là où il parle du cep et des sarments. Si nous nous unissons à Jésus à travers, par le moyen, le billet, l'entremise de sa parole, et il est cette parole, alors nous sommes greffés directement sur lui et nous puisons de lui la vie qui est en lui, de la même manière que le sarment, lorsqu'il est greffé sur le cep, puise l'énergie, la sève même de ce cep. Et donc cet appel de manger la chair de Jésus et de boire le sang de Jésus, c'est véritablement un appel à le contempler, comme nous l'avions vu précédemment, dans sa parole. Et nous avons vu que quand nous contemplons Jésus dans sa parole et que nous le trouvons ainsi, nous le voyons tel que sa vie y est révélée, nous serons transformés à son image. Et nous voulons être transformés à l'image du Fils, à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que cela arrivera. Mais c'est pour cela, vous voyez, que nous sommes passés par ce cheminement de l'enfant prodigue et de son expérience que nous ne pouvons éviter. Parce que en ces derniers temps, partout il est question de divertissement, des caroubes du monde, des plaisirs, des passions et des idées du monde. Et partout, à chaque instant, Satan cherchera à s'accaparer toutes les énergies de notre esprit pour faire que nous perdions de vue Jésus et que nous ne retirions plus, à partir de ce moment-là, l'énergie et la vie qui nous viendraient autrement de lui à travers la communion avec lui par sa parole. Et pour élargir cela, j'aimerais bien lire l'esprit de prophétie dans laquelle nous avons un élargissement encore une fois de cela. C'est dans le livre « Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants » à la page 12. au paragraphe 3. Voilà ce qui est écrit. La curiosité a conduit les hommes à travers les âges à rechercher l'arbre de la connaissance. Ils croient cueillir le plus vital des fruits, alors que ce dernier n'est que vanité et néant comparé à la pure science de la vraie sainteté qui ouvre les portes de la cité céleste. L'ambition humaine est en quête d'une connaissance qui nous donnerait la gloire, l'exaltation de soi et le pouvoir. C'est ainsi qu'Adam et Ève se sont laissés influencer par Satan, franchissant les limites imposées par Dieu, et c'est ainsi que le père du mensonge a commencé leur éducation. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez saisi cela, mais nous lisons ici que à partir de ce moment où Adam et Ève ont pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, Satan a commencé leur éducation. Ils ont acquis la connaissance que Dieu leur avait refusée, celle des conséquences de leur transgression. Et maintenant, cela continue où elle fait le rapprochement avec notre expérience présente. Elle dit « L'arbre de la connaissance ainsi nommé est devenu instrument de mort. Satan a habilement tissé ses dogmes et ses fausses théories dans la trame des instructions données. S'appuyant sur l'arbre de la connaissance, il parle de l'éducation spirituelle en termes particulièrement flatteurs. Et vous pourrez le discerner à chaque tournant si nous faisons preuve de discernement, que si nous sommes vraiment à l'affût de chaque élément par lequel nous pourrions discerner la présence de son activité, et nous verrons ces termes flatteurs par lesquels il cherche sans cesse à attirer les âmes à ses stratagèmes et à les piéger. Cela a été le début de son activité auprès de la race humaine et il est sans cesse en train de répéter la même sorte d'activité. Des milliers de gens consomment de ce fruit qui les entraîne dans la mort. Christ déclare « Vous dépensez votre argent pour ce qui ne nourrit pas. » Donc là, elle vient de citer le passage d'Ésaïe 55 et c'est pour ça que nous voudrions maintenant nous tourner vers cela. Ésaïe chapitre 55, verset 1. À 3. Oh, vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra et je traiterai avec vous une alliance éternelle selon les gratuités immuables données à David. Donc voilà, nous avons dépensé nos énergies, peut-être même notre argent, pour des choses qui ne nourrissent pas. Parce que nous avons été trompés, Satan nous a piégés, et nous nous retrouvons dans cet état altéré, sans argent. Parce que comme ce fils prodigue, nous avons dilapidé les ressources de notre Père, et il nous appelle, toi qui es altéré, viens aux eaux. Et quand bien même tu n'as plus d'argent, viens, achète et mange. Viens, achète sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Le sang, mon sang, achète-le avec tout ton cœur. Et le lait, l'eau de ma parole, reçois-la avec ton cœur contrit qui tremble à ma parole. Pourquoi encore dépenser ton argent, tes facultés morales et intellectuelles de concentration, ton temps, tes talents donnés de Dieu pour ce qui ne te nourrit pas et ne te rassasie pas? Vous entendez la voix de Dieu ici qui cherche à se faire comprendre en faisant réaliser à l'âme ce qu'elle perd en ayant voulu gagner tant la connaissance du bien et du mal. Ça ne te rassasie pas. Satan est sans cesse en train d'attirer les affections et la concentration des enfants de Dieu, de tout le monde entier, et également des enfants de Dieu vers ces choses, ces fruits sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cela se termine toujours en amertume et en regret. Mais Jésus, il nous appelle, il dit « Prête l'oreille et viens à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Vous voyez le parallèle ici entre le moment où il disait que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par moi. Il dit ici « Prête l'oreille et viens à moi. Écoute ce que je dis. Dans ma parole et ton âme vivra. » Et il dit, « Je traiterai avec toi une alliance éternelle, même, comme nous lisons dans la Bible Martin, même les gratuités immuables données à David. » Et quelles étaient les gratuités? Les grâces, comme nous lisons autre part, immuables, faites, donnée, promise et accordée à David, c'était que Dieu, quand bien même David est tombé comme il est tombé avec Bathsheba, c'est que Dieu, quand David s'est repenti avec cet esprit qu'il a manifesté devant Nathan, Dieu l'a pardonné. Et Dieu l'a reçu, et non pas cela, mais il dit, voici, je l'ai même établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et législateur des peuples. Voilà la gratuité, l'amour, la miséricorde de Dieu qu'il présente à l'enfant prodigue qui revient, qu'il a présenté à David lorsqu'il est revenu et qu'il présente à tout enfant prodigue aujourd'hui lorsqu'il revient à la maison paternelle. Et on veut prendre le temps de lire ce retour de l'enfant prodigue qui est tellement significatif et rempli de leçons si nous avons des oreilles pour entendre dans Luc, chapitre 15, au verset 17 et suivant. Et alors qu'il était encore dans ce pays étranger, qui était accablé par la famine, l'enfant prodigue étant donc rentré en lui-même, comme nous venons de le faire ici, rentré en nous-mêmes dans la contemplation des paroles de Jésus, étant donc rentré en lui-même, il dit « Combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance ? Et moi, je meurs de faim. Je me lèverai et je m'en irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Et courant à lui, il se jeta à son cou et le baisa. Et son fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez, et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, et amenez le veau gras et le tuez. Mangeons et réjouissons-nous, parce que mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Donc alors que l'enfant, il était encore loin, le père l'a vu et il a été ému de compassion. Et il s'est mis à courir vers lui. Et cette parabole, elle est là. Elle est là pour nous représenter l'amour de Dieu tel qu'il est vraiment. Nous lisons que Dieu est amour. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsque le pécheur repentant revient à lui, il ne se tient pas les bras croisés en attendant que allégeance lui soit faite et que le pécheur se courbe et fasse toutes sortes d'œuvres de pénitence. Que fait-il ? Que fait Dieu envers le pécheur repentant dont le cœur est contrit et qui a choisi de repartir à la maison du Père pour être traité en serviteur ? Le Père court. Le Père court. Il se jette au cou du fils et l'embrasse. Et quand le fils dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, traite-moi comme un de tes serviteurs. » En fait, il n'a même pas le temps de dire. Il dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et avant même qu'il continue, le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds et réjouissons-nous. » Donc, on veut absorber. On veut absorber et se souvenir que Dieu ne regarde pas comme un tyran vindicatif, mais il regarde et observe et guette le retour du Fils. J'aimerais que on lise pour conclure dans
dans les paraboles de Jésus, à la page 172, au paragraphe 1. Dans la parabole, l'enfant prodigue n'est ni réprimandé, ni rejeté à cause de sa folie passée. Il a vraiment le sentiment que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée, pour toujours. De même, Dieu dit au pécheur, « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc l'esprit de prophétie nous dit que c'est ça le langage du Père à l'enfant prodigue qui revient avec l'amertume, le regret et la repentance dans son cœur. Il dit que sa faute est pardonnée, effacée, oubliée pour toujours. Et donc, ça fait partie de l'heure du jugement, frères et sœurs, c'est que nous avons besoin d'avoir cette confiance en notre Père Céleste qui nous aime suffisamment et à un tel point qu'il est prêt à consacrer toutes ses énergies à guetter notre retour. Et donc, à la lumière d'un tel cœur de Dieu, nous voulons ne plus briser le cœur de Dieu. Et comme l'apôtre a dit, pêcherons-nous pour que la grâce abonde? Nous disons non, nous ne pêcherons pas pour que la grâce abonde, mais lorsque dans notre péché nous nous sentons abandonnés, nous voulons nous rappeler que c'est cela, la pensée de Dieu pour les enfants de Dieu. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que lorsque les caroubes du monde se révèlent néante et vide et insatisfaisante comme du gravier dans notre bouche. Malgré tout, lorsque, comme c'est écrit dans Amos chapitre 8 verset 11, lorsque il y a une famine pour les paroles de l'Éternel dans le pays, sur la terre, et que nous avons souffert une séparation de Dieu par nos propres fautes, malgré tout, si nous tremblons encore à la parole, le Père guette notre retour et il est celui qui fait les premiers pas et qui s'élance vers nous pour nous recevoir, nous revêtir de la justice de Jésus qui nous a été placé devant nos yeux à un tel prix. Et donc, lorsque nous nous détournons de ces caroubes du monde, ces plaisirs du monde, ces attraits du monde, et que nous voulons nous élancer vers celui qui ne nous fait jamais défaut, nous trouvons un Père qui ne nous fait jamais défaut. Et nous trouvons dans notre relation avec lui, à travers ses paroles, une parole qui ne fait jamais défaut. Vos amis vous feront défaut peut-être, et vous sentirez souvent que les circonstances vous troublent et vous tracassent, que les liens familiaux sont coupés, mais il en est un qui ne nous fera jamais défaut. Et nous voulons nous rappeler à chaque fois que les choses de ce monde passent et sa convoitise, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et si nous vivons de cette parole, de ce pain qui est Jésus, nous vivrons également par lui. Et donc, toutes nos bonnes actions ne pourront effacer les taches irréparables sur le tableau de notre vie, mais le Seigneur nous appelle à racheter le temps et à venir à lui. Et il nous dit, quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils seront blanchis comme la neige. Donc voilà, frères et sœurs, il y a de quoi animer et raviver nos méditations et notre affection pour Jésus. Et puis, cette pensée que Dieu pardonne nos péchés et les efface pour toujours, puisse-t-elle nourrir notre amour pour Dieu, pour lui obéir et faire ce qui est agréable à ses yeux. Puisse cela être notre expérience, frères et sœurs, et nous aurons besoin à chaque pas de nous rappeler qu'en cette dernière phase du temps de grâce, il nous faut constamment garder nos regards sur Jésus, garder nos regards fixés sur Jésus et sur l'amour que le Père nous a révélé en lui. Puisse cela nous animer et nous être rappelés sans cesse par le Saint-Esprit, et puissions-nous également travailler à notre salut avec crainte et tremblement, et avoir cette assurance que l'amour de Dieu et sa parole ne nous fera jamais défaut. Amen.